Passagem de Nível, com Artur Silva.
Bonjour à toutes et à tous. Passage à niveau en votre compagnie ce 16 de octobre et ça jusqu'à 14h. Et je rappelle, émission à rediffusion dans la nuit du mercredi à jeudi à partir de 13h. Et voilà le menu. On va parler du casse-tête chinois du pouvoir local en France. Avec le prix de l'énergie et pas seulement les dotations du gouvernement qui se réduisent. On est avec nous dans les studios avec le président du département du Val-de-Marne, monsieur Olivier Capitanio. Après, on va partir à Bordeaux pour parler de deux colloques autour de l'écrivain portugais José Saramago. Le 22 novembre, ça fera 100 ans qu'il est né. Et on parlera d'un projet, d'art aimé également avec les écoles. Tout ça se passe à Givor. On ira jusqu'à Givor, mais ça vient du nord du Portugal. Des explications un petit peu avant 13h. Et on parlera également du salon de la BD, Amadora BD, qui aura lieu du 20 au 30 octobre avec des luso-descendants, notamment Olivier Afonso et son livre Les Portugais. Et le rôle de la littérature dans le processus de la décolonisation de l'Afrique lusophone, on ira jusqu'à Dakar avec le professeur Abou Aïdara. Et finalement, on reste en France, mais on va parler de la musique du Cap-Vert. Monsieur Capitanio, bonjour et merci d'être avec nous à nouveau.
Bonjour à vous, merci de votre invitation. Et puis je salue tous les auditeurs de Radio Alpha.
Alors, on va faire un point d'étape. Un point d'étape et on va commencer peut-être, mais ça se chevauche avec tout un tas de choses. Vous avez demandé la mise en place d'un bouclier tarifaire énergétique. Alors, les chiffres que vous avancez, elles font peur. Hein. Elles font peur parce que ça concerne l'électricité, par exemple. Bon, et le gaz, c'est quelque chose de complètement infernal.
Oui, comme les particuliers, comme les communes, le département est confronté évidemment au choc de l'augmentation du coût de l'énergie que nous avons devant, que nous connaissons et que nous allons encore avoir davantage demain. Nous avons fait les comptes, l'année prochaine, en 2023, c'est entre 15 et 17 millions d'euros supplémentaires que nous allons devoir prendre en compte pour pouvoir payer ce coût de l'énergie. C'est évidemment un gouffre financier et c'est pour ça que nous en avons appelé, j'ai écrit à la Première Ministre pour que les collectivités, les départements, les collectivités locales en général, les mairies, puissent bénéficier du bouclier tarifaire dont certains bénéficient et il est indispensable que le gouvernement nous entende. Nous avons été reçus d'ailleurs avec un certain nombre de maires de toute sensibilité politique vendredi soir par la préfète à qui nous avons relayé nos préoccupations parce que il faut bien avoir conscience que cette hausse du coût de l'énergie va impacter durablement et durement les finances des communes, les finances des départements et donc cela risque d'avoir un impact à la fois sur la possibilité de maintenir certains services publics et aussi sur la capacité d'investir des collectivités locales.
Parce que parallèlement, il y a certaines choses qui sont passées. La revalorisation du point d'indice, le Ségur Santé, l'augmentation du montant de l'allocation RSA. Je pourrais continuer la liste.
Oui, vous pourriez continuer la liste, vous avez raison. Ben écoutez, ces décisions qui ont été prises par le gouvernement et qui sont prises en charge financièrement en grande partie...
En partie uniquement.
En grande partie, oui. Pas totalement, mais en partie, par les départements, ça aboutit à une hausse sur une année pleine, sur une année 2023, de près de 35 millions d'euros. Alors, quand vous additionnez ces décisions de l'État, 35 millions d'euros d'un côté, l'augmentation du coût de l'énergie entre 15 et 17 millions d'euros sur une année, vous voyez que le département doit trouver une charge de dépenses de fonctionnement l'an prochain de plus de 50 millions d'euros à devoir assumer.
Mais justement, ce décalage entre l'État qui délègue au département, c'est un nombre de charges financières et pas seulement, que les dotations ne suivent pas. Mais ça fait des années que ça dure. Ça ne date pas de maintenant avec la Covid, etc.
Non, effectivement, vous avez raison. Si j'en reste juste au département, mais les villes ont connu, les communes ont connu des problèmes similaires. Problème. Mais pour le département, il est vrai que depuis des années, il y a un désengagement financier de l'État, qui, notamment sur les allocations de solidarité, hein, le RSA, mais aussi sur l'aide personnalisée d'autonomie, etc., etc., ne compense pas les charges qu'il demande au département d'assumer. ils ne les compensent pas. Et petit à petit, au fur et à mesure du temps, les départements ont assumé financièrement une charge supplémentaire et qui impacte directement leur budget. Mais aujourd'hui, cette problématique s'accentue d'année en année.
Alors, dans ce contexte, entre-temps, il y a la publication d'état de lieu financier de la collectivité, à savoir du département, et apparemment, vous dites, une situation financière alarmante.
Quand on est arrivé aux affaires, j'ai souhaité qu'on puisse faire un état des lieux financier par une société qui s'appelle un cabinet.
Qui travaillait déjà avec le département avant que vous arriviez.
Absolument. Le cabinet a été choisi. Le cabinet, en l'occurrence, c'est le cabinet Mazars. Ce n'est pas nous qui avons choisi de faire appel à ce cabinet. C'était une décision, un cabinet avec lequel travaillait l'ancien exécutif qui avait fait le choix de ce cabinet. Donc, on a sollicité ce cabinet pour nous objectiver la situation, puisque quand on était dans l'opposition, nous avions fait part de nos inquiétudes et de notre très vive préoccupation quant à la dégradation de la situation financière du département, mais je voulais qu'on ait quelque chose d'objectif par un cabinet extérieur. Il a rendu ses conclusions l'été dernier, donc nous avons présenté cet audit là au mois de septembre. Il y a 15 jours, 3 semaines, à la commission des finances du département. Et effectivement, il fait part d'une situation extrêmement difficile, une situation alarmante, parce que notre situation financière ces dernières années s'est dégradée. C'est très simple. Vous savez, on est maintenant face aux difficultés, et encore une fois, l'État a sa part de responsabilité. Mais face aux difficultés, le choix de l'ancien exécutif a été d'augmenter la dette et de ne pas maîtriser les dépenses suffisamment, les dépenses de fonctionnement, et donc de faire une sorte de fuite en avant en empruntant toujours plus. Ça se traduit clairement, on est aujourd'hui le deuxième département en Île-de-France le plus endetté, avec plus d'un milliard de dettes, et on est maintenant le quatrième département en France de notre taille, c'est-à-dire de plus d'un million d'habitants, le plus endetté. Donc, si vous voulez, c'est une situation qui est périlleuse, parce que chaque année, évidemment, le remboursement de l'emprunt vient alourdir nos dépenses, puisqu'il faut bien évidemment rembourser l'emprunt. Et aujourd'hui, chaque année, nous devons rembourser près de 80 millions d'euros qui viennent directement pénaliser notre budget année après année.
Alors, M. Favier vous a répondu, il a dit, comment peut-on considérer comme charge les politiques sociales et le développement du service public, et il avance un certain nombre de choses, le réseau de crèches départementales, l'augmentation de la densité des PMI, des collèges 29 et rénovés entre 2015 et 2021, l'environnement, les espaces verts, l'assainissement. Bon, ça, ce sont des investissements, ce sont des charges.
Oui, je suis d'accord, mais si vous voulez, d'abord, je comprends très bien que mon prédécesseur défende son bilan, c'est humain et c'est la règle. Mais moi, je regarde, si vous voulez, je ne veux pas polémiquer, c'est pas le sujet. Je veux mettre les choses objectivement sur la table. C'est pour ça qu'il y a eu cet audit. Et si vous voulez, il y a quelque chose de factuel. Tous les départements de France ont été confrontés à la même situation ces dernières années que le département du Val-de-Marne. On est à égalité sur cet aspect-là. Eh bien, quand vous voyez que entre 2016 et 2020, en 2016, le département du Val-de-Marne était le huitième département le plus endetté parmi les départements d'un million. Aujourd'hui, on est le quatrième. Ça veut bien dire que nous avons fait le choix, c'est un choix politique, ils peuvent l'assumer, mais ils ont fait le choix, l'ancienne équipe a fait le choix de s'endetter massivement.
Oui, mais massivement. Est-ce que c'était pour des trucs utiles ou pas? Oui. Est-ce que finalement, ça a servi les Val-de-Marnais?
Ah, mais vous savez, si on avait là une planche à billets,
d'accord,
et qu'on puisse fabriquer de l'argent gratuitement, on pourrait investir indéfiniment, et ça serait une très bonne chose. Mais il y a un moment, aujourd'hui, on est dans la situation où on va, singulièrement au moment où les taux d'intérêt augmentent, où on va être dans la difficulté, parce que cette fuite en avant a un coût énorme pour la collectivité. C'est notre capacité à agir, justement, à investir qui va être mise en question. Parce qu'il y a un moment, on ne peut pas emprunter indéfiniment. Et donc, c'est pour ça qu'on a besoin de faire des économies en matière de fonctionnement pour pouvoir que notre département, comme font les autres départements de France, puisse autofinancer une plus grande part de ces investissements au service des Val-de-Marnais.
Tout à l'heure, vous avez parlé de charges, et c'est moi qui ai commencé d'ailleurs, justement sur l'augmentation du personnel qui travaille pour les collectivités territoriales. Bon, normalement, c'est l'État de compenser ça complètement. Vous avez parlé de compensation aux alentours de 35 millions, c'est ça? En gros.
Non, il y a des décisions qui sont normales il est normal que le département, les collectivités locales assument le coût des salaires de leurs agents. Ça veut dire, c'est la moindre des choses. Mais par exemple, sur les allocations de solidarité, quand on parle des allocations de solidarité, c'est une solidarité nationale. Ce sont les départements qui payent en grande partie. Or, au fur et à mesure du temps, cette solidarité nationale qui devrait donc être compensée par l'État, par des crédits d'État, le taux de compensation s'est réduit d'année en année, laissant un reste à charge important au niveau des collectivités locales. C'est ça que nous dénonçons. Et d'ailleurs, l'équipe précédente, là, sur ce sujet-là, on était tout à fait en face.
Oui, parce qu'ils avaient l'État avait une ardoise, ça concerne le département, énorme, des centaines de millions d'euros.
Je suis d'accord avec vous. Ça, on l'a toujours dénoncé et on continue à le dénoncer. Mais cette réalité-là était la même pour tous les départements de France. Et c'est là que je diverge avec mon prédécesseur. C'est que les autres départements ont fait des choix qui leur ont permis d'être aujourd'hui dans une meilleure situation budgétaire, financière, et donc être en meilleure situation pour assumer demain le choc que l'on va connaître, ce qui n'est pas notre cas.
Bon, c'est assez en fonction aussi des industries qui sont présentes, et pas seulement, hein, parce que bon, je vois pas, bon, on parle toujours de Hauts-de-Seine, là c'est un cas à part. Comme dirait l'autre, beaucoup de présidents des départements aimeraient bien présider le 92. Alors, face à telle situation, bien entendu, il faut qu'on attende l'année prochaine le budget pour 2023, mais donc il va falloir faire des coupes. Il y a quelque chose qui se passe, par exemple, ça concerne le chèque énergie. Apparemment, le département va donner un complément, mais qu'est-ce qui se passe avec la fête des solidarités? Un exemple, la fête des solidarités disparaît, mais vous dites attention.
Alors en fait, pour être clair, le chèque énergie, ce n'est pas une économie, puisque c'est un chèque qui n'existait pas jusqu'alors. Face à la situation à laquelle sont confrontés nos habitants, les Val-de-Marnais, comme tous les Français, on a pris la décision de créer un chèque énergie. Mais un chèque énergie qui ne va pas venir concerner les mêmes personnes qui vont être aidées par le dispositif de l'État, puisque l'État, vous le savez, vient à annoncer il y a peu qu'il allait y avoir un chèque énergie de 100 à 200 euros pour les personnes vraiment les plus modestes. Nous allons venir avec un chèque énergie de 50 euros en complément pour celles et ceux qui sont des travailleurs modestes, aux revenus modestes, mais qui ne vont pas bénéficier du chèque énergie de l'État de 100 ou 200 euros. Donc pour compléter le dispositif, donc c'est un chèque de 50 euros. Pour financer ce chèque de 50 euros, on a fait le choix d'utiliser les crédits qui étaient jusqu'à maintenant employés pour la fête des solidarités et le chèque de solidarité. Un chèque qui n'était pour 80% des gens que de 39 euros, donc vous voyez. Mmh. Et on va abonder les crédits dès demain d'ailleurs, puisqu'on a le budget supplémentaire dès demain. On va rajouter une enveloppe de 400 000 euros. Donc vous voyez, ce n'est pas une économie en l'occurrence. Là, c'est plutôt un effort de la collectivité pour aider les Val-de-Marnais à supporter la crise énergétique. Et effectivement, la fête des solidarités cette année n'aura pas lieu. Elle n'avait pas eu lieu d'ailleurs les deux années précédentes pour d'autres raisons. Absolument, à cause du Covid. Mmh. Et donc cette année, la fête des solidarités, ça coûtait entre 300 et 400 000 euros pour une journée. J'ai estimé que pouvoir accompagner, si c'est 400 000 euros, pouvoir accompagner 8 000 familles supplémentaires avec le chèque de 50 euros, ça valait la peine. Ça me paraissait être une dépense plus utile pour les Val-de-Marnais.
À propos de dépenses plus utiles, le gel des tarifs des cantines, c'est la région qui paye ou c'est le département?
C'est le département. C'est le département qui paye. Ça, c'est une autre décision que nous avons prise, effectivement. C'est la première fois depuis bien des années que le département ne va pas autoriser, puisque vous savez que c'est le collège qui décide, qui vote en conseil d'administration l'augmentation ou non des tarifs de restauration dans des cantines. Mais le département, chaque année, délibère pour autoriser à tel ou un niveau maximum d'augmentation. Et bien là, cette année, j'ai pris la décision avec la majorité départementale de fixer le taux à 0%, c'est-à-dire d'interdire les augmentations, parce que là encore, en matière de, c'est une mesure pour le pouvoir d'achat des Val-de-Marnais.
Est-ce que la carte améthyste se maintient?
Oui. Ah oui, absolument.
Le 50% sur la carte Navigo aussi?
Oui, tout à fait. Ah oui, de toute façon, j'avais des clairs lorsqu'on a été élu, tout à fait. Non, on maintient. On maintient. Il n'y a pas de décision qui vont à l'encontre de ça. C'était un engagement que j'avais pris, je ne reviens pas sur mes engagements.
Alors, on sait que ça concerne les investissements, les collectivités territoriales sont très importantes.
Absolument.
Alors, je vois pas quels moyens vous avez, vous, pour vous, quand je parle de vous, c'est en règle générale le pouvoir local, justement, d'investir, parce que derrière ça, il y a tout le tissu d'entreprise, et pas seulement.
C'est tout à fait exact ce que vous indiquez. C'est justement le cri d'alarme qu'on est allé, qu'on a poussé avec un certain nombre de maires, de toutes, encore une fois, de sensibilités politiques différentes, vendredi soir chez la préfète, en disant attention, le choc énergétique qui va impacter nos budgets risque de conduire à une réduction forte des investissements publics. Et là, ce n'est pas une question de couleur politique, c'est une question de réalité budgétaire. Et donc, avec une diminution sans doute des investissements publics qui seront extrêmement pénalisants pour notre entreprise, parce que 70% de l'investissement public, ce sont les collectivités locales.
Oui,
donc,
fait,
si on n'est plus en capacité d'agir, c'est pour ça que nous demandons ce bouclier tarifaire, parce que sinon, nous serons obligés de réduire l'investissement et ça serait embêtant. Je reviens justement en parlant d'investissement. Je voulais vous dire aussi que par rapport à l'audit ou à l'état des lieux financiers, je préfère ce terme, Mazars, il y a une chose aussi qu'il faut bien mesurer. C'est que, par exemple, quand vous me parliez de l'investissement nécessaire qu'évoquait mon prédécesseur, c'est une réalité. Sauf que, vous voyez, pour l'année prochaine, par exemple, en 2023, ils nous ont laissé un plan pluriannuel d'investissement où nous avons 300 millions d'euros d'engagement pris, 300 millions d'euros. Or, la règle depuis des années et des années, y compris sous l'ancien exécutif, c'était que le volume d'investissement annuel était d'environ 200 millions de charges nettes par an. C'est-à-dire qu'ils ont pris des engagements de 50% supérieurs à ce que la charge des investissements habituels qui étaient menés par le département. Donc là aussi, c'est une vraie difficulté. Le département a promis des choses à hauteur de 300 millions d'euros en 2023, alors qu'on investit habituellement 200 millions d'euros. Vous voyez la difficulté ?
À propos d'investissement, il faut faire des économies d'énergie, n'est-ce pas ? Alors, bien entendu, je vais parler du logement social.
Oui.
La plupart sont des passoires énergétiques. Donc, qui va financer ça encore ?
Il y a déjà, en fait...
L'aide gouvernementale.
Oui, il y a des aides gouvernementales, mais il y a aussi les bailleurs sociaux font des gros investissements. Je peux en témoigner parce que j'étais maire auparavant, et il y a des programmes importants qui sont lancés de rénovation énergétique sur les bâtiments des logements sociaux. Il y a des opérations très importantes dans beaucoup de communes du département. À vrai dire, je suis moins inquiet peut-être pour la lutte contre la précarité énergétique chez les bailleurs sociaux que chez les petits propriétaires fonciers individuels. Parce que chez les bailleurs sociaux, il y a des moyens financiers, même si la situation est compliquée. Ils peuvent être accompagnés par un certain nombre de financements d'État, de la Banque des Territoires, etc.
Bien que ces financements...
ces financements se réduisent. Mais si vous voulez, il y a des leviers financiers possibles. En revanche, je pense à toutes ces personnes qui habitent, qui sont des gens très modestes et qui vivent dans des passoires thermiques, qui sont propriétaires ou locataires dans le parc privé, qui, eux, à mon avis, pour l'instant, ne sont pas aidés. Nous lançons justement un programme aujourd'hui de ce qu'on appelle le programme Slim. C'est un programme qui va permettre d'aller faire des études chez les gens pour voir quelle est la situation en matière de précarité énergétique, pour voir les travaux qui seraient nécessaires à faire. Je crains vraiment que ce soit sur ce secteur-là que la situation soit la plus difficile.
Et surtout avec l'augmentation. Bon, on annonce 15% d'augmentation au mois de janvier, ce qui concerne le gaz et l'électricité. Bon, c'est le bouclier...
Tarifaire,
oui. Tarifaire, oui, bon, on verra. Simplement, quand on vous annonce à vous, département, les fournisseurs, plus de 132% pour l'électricité, 400% pour le gaz, plus 200% pour les réseaux de chaleur. Bon, bonjour la piscine, bonjour ceci, bonjour cela, sans oublier tout ce qui se passe au niveau des maternelles. Bon, c'est un exemple, les EHPAD, bon, et tout ça. Alors, pour terminer, Monsieur le Président, JO 2024. Alors,
oui.
Question, il y avait quelqu'un qui a répondu il y a déjà 40 ans, je ne sais pas combien de temps, on pourra nager...
Dans l'eau de la mer.
Dans la Seine. Alors, la question, est-ce qu'en 2024, on pourra nager dans la Marne ?
Écoutez, on fait vraiment tout comme jamais pour y arriver. On a investi des sommes considérables. Je pense au département, puisque le département va investir 80 millions d'euros pour rendre la Marne et la Seine baignables, notamment avec un énorme investissement en cours à Champigny, où il y a une un système de dépollution qui est en place, qui est en train d'être construit. Mais aussi, je pense aussi à l'effort qui sont faits par les territoires. On n'en parle pas assez parce que le territoire font aussi des gros programmes d'amélioration de l'assainissement qui concourent vraiment à l'amélioration de la qualité de l'eau. Donc sur le département, tout cumulé, c'est un investissement de près de 200 millions d'euros avec toutes les collectivités pour atteindre cet objectif. Alors l'objectif, c'est les Jeux Olympiques, évidemment, de 2024. Ça nous donne, si j'ose dire, un objectif calendaire.
Voilà, mais ça nous pousse. Oui.
Ça nous pousse, exactement. Mais l'objectif, c'est aussi que ça soit un héritage. C'est pas simplement pour 15 jours de compétition. C'est pour un héritage demain, pour pouvoir rendre l'accès à la Marne, l'accès à la Seine au Val-de-Marnais, parce que je pense que de toute façon, c'est un élément d'amélioration de la qualité de vie. Mmh. Et ça l'est d'autant plus qu'aujourd'hui, avec les problèmes de réchauffement climatique, où de toute façon, les gens vont avoir besoin d'aller vers l'eau dans les périodes de chaleur. Et donc, il va falloir pouvoir rendre les rivières baignables de nouveau dans des conditions sécures, et à la fois sur le plan sanitaire, à la fois sur le plan de la surveillance. Et vous savez qu'il y a des projets d'aménagement de plages ensuite. Et donc, c'est un investissement, c'est vraiment pour nous une priorité.
Et qu'on puisse pêcher.
Et on puisse pêcher. Mais là, on peut déjà, hein, parce que la qualité de l'eau, c'est déjà très sensiblement améliorée. On voit des espèces de poissons qui avaient disparu revenir dans nos rivières. Donc ça, c'est plutôt un élément positif. Il y a au moins des éléments positifs dans cette conjoncture un peu terne.
Et on pourrait chanter au bord de l'eau.
Absolument.
Non, là, je pense au Guingade, bon, notamment. Bon,
on reviendra à une belle tradition. Absolument, on reviendra à une belle tradition.
Voilà, juste à côté de ce pont de Joinville, mais enfin. Monsieur Capadigno, merci. Je rappelle que vous êtes président du conseil départemental du 94 du Val-de-Marne. Donc, on se donne rendez-vous dans quelques mois, probablement au début de l'année prochaine, parce que là, on verra déjà plus clair, d'autant plus qu'on attend le budget d'État.
Absolument.
Bon, normalement, ça va passer cette semaine avec le 49.3. Bon, je dis ça.
On en saura plus à la fin de la semaine, peut-être.
Merci de votre venue et à bientôt.
Merci à vous et bon dimanche à vos auditeurs.
Merci. Nous, on revient dans quelques instants et on partira après Oussaou et à Bordeaux et après Givors. E voltamos aqui ao Direto Passagem Nível neste domingo 16 de outubro. Centenário do nascimento do escritor José Saramago, Clock Internacional nos dias 17 e 18 de outubro, sucessivamente na Sorbonne Nouvelle e Sorbonne Université em Paris. Silvia Amorim, muito boa tarde e obrigado por estar em direto connosco.
Muito bom dia.
Bom dia. Lembra, é professora da Universidade de Bordeaux-Montaigne e que organiza esta iniciativa José Saramago, que nasceu a 16 de novembro de 1922 na aldeia de Azinhaga, Prémio Nobel da Literatura em 1998, e o tema do colóquio, Criação, Diálogo e Crítica. Precisamente para resumir a obra do José Saramago, digamos que é complexo mais, não é?
Digamos que durante os dois dias do colóquio pretendemos refletir sobre o diálogo que José Saramago estabelece com o cânone, com a tradição, com os poderes instituídos, porque ele está sempre a revisitar vários textos consagrados, textos literários, o texto bíblico, a história. E, portanto, essa relação que ele estabelece é sempre complexa, porque é sempre, ao mesmo tempo, uma crítica, uma reinterpretação, por vezes uma subversão, mas é também uma homenagem e, por vezes, um reconhecimento da autoridade desses textos. Portanto, Saramago está sempre a mostrar que as fronteiras do cânon, e a mostrar que elas são flutuantes. E que nós temos que rever também as nossas normas.
Mas quando se fala nossas normas, devemos que refletir de uma forma crítica, bom, relativamente àquilo que se passa, penso que foi escrito num sítio qualquer, revisitar o passado e questionar o presente.
Sim, portanto está no programa do colóquio.
Com efeito.
É isso, quer dizer, um dos objetivos de Saramago é sempre... ir explorar os recantos, aquilo que às vezes está esquecido ou aquilo que por vezes recalcamos, e portanto isso ajuda-nos a entender ou a ver de forma diferente o nosso passado e também o nosso presente, a nossa identidade, E é verdade que a obra de Saramago continua a estimular o imaginário, a reflexão, porque além de contar histórias fascinantes, Saramago também revela o seu posicionamento político, social, ético, e vai abordando as grandes questões do nosso tempo. Hein? É por isso que a sua obra tem essa capacidade de atualização e é por isso que continuamos a estudá-la.
Finalmente, a partir da obra de José Saramago, podemos seguir um pouco a história não só de Portugal, bom, porque bom, o fascismo, não é, ele também tem problemas enormes e isso tudo, mas é curioso que alguém que era de origem humilde, porque ele trabalhou na fábrica, fez isso tudo, e o primeiro texto dele data, penso eu, de 1954, salvo erro, é isso?
O primeiro romance é A Viúva, portanto ele tinha uns 20 e poucos anos quando publicou esse texto, em 47.
47, pois, mas foi 20 anos depois que o Saramago começou a ter o destaque que... Ou não?
Sim, a carreira dele realmente começou no final dos anos 70, portanto ele...
A partir de 74, então?
Depois de 74, portanto, ele entra numa fase de realmente de escrita e inicia a sua carreira literária quando acaba a sua atividade de jornalista, e portanto ele resolve, dedicar-se à escrita e começa a publicar nessa altura, portanto, nos finais dos anos 70. Mas é verdade que ele precisou, talvez, também desse período de formação, de amadurecimento da sua obra. As coisas foram-se construindo e ele escreveu e publicou coisas antes dessa fase. Ele publicou poemas, publicou crónicas que ele tinha anteriormente publicado em jornais, fez várias tentativas de escrita de romances, portanto, e além disso ele formou-se também traduzindo, lendo, portanto, esse período de várias décadas que foram necessárias para que o Saramago, escritor, nascesse.
Sim, entretanto, esse propósito de poemas acaba de ser editado em Portugal pela Assírio e Alvim, uma antologia da poesia de José Saramago. Agora, perguntando, é que se, finalmente, quando ele partiu exilado, ele sentiu a necessidade de se exilar, bom, isso aí já dava para fazer um debate ou um cloque, mas será que a fase de Lanzarote teve uma influência relativamente à sua maneira de escrever, à análise que ele faz, porque os seus romances, com efeito, bom, vão para além do romance, há todo um certo número de alusões à nossa vida, e não só um certo número de problemas de sociedade. Mas houve um salto qualitativo ou não à ida para Lanzarote?
Sim, houve uma evolução, porque ele mudou de trajetória literária depois do Evangelho segundo Jesus Cristo e do seu afastamento, efetivamente, para a Espanha. E ele, a partir daí, começa uma nova fase na sua escrita, portanto, que ele chama, o que chamamos, os críticos chamam de alegórica. Portanto, ele usa também uma metáfora para explicar essa evolução da sua obra. Até ali ele observava a superfície das coisas, a superfície da estátua, e depois ele vai entrar dentro da estátua, portanto ele vai analisar a pedra, no fundo ele vai tentar entender o que é o ser humano. A grande pergunta na segunda fase da obra de Saramago é definir o ser humano e descobrir o que é que nos faz, o que é que nos torna humanos, o que é que nos define, quais são os valores imprescindíveis para podermos ser humanos.
Mas será que a literatura de José Saramago, o trabalho de José Saramago, trabalho literário, podemos vê-lo também como uma forma de diálogos, múltiplos diálogos ou diálogos? Porque, concretamente, no colóquio, bom, vai-se falar, entre outros, bom, agora ando à procura, peço imensa desculpa, no que diz respeito a Garcia... eu estou perdido relativamente a um grande escritor da América Latina, etc, etc, e Agostina Bessa Luís, por exemplo. Como é que se pode fazer um diálogo entre Saramago e Agostina Bessa Luís aqui presente para além da morte? Concretamente, vai haver uma intervenção nesse sentido.
Sim, sim. Não, ele vai dialogar, a Saramago dialoga com a literatura em geral, portanto, não só com Agostina, mas também com Borges, com Pessoa, com Camões, portanto, com todos, no fundo, os grandes autores, mas também dialoga com géneros, com, portanto, o diálogo é permanente, hein? E é verdade que essa dimensão intertextual, hein, como dizemos, está muito presente na obra de Saramago, até porque Saramago é um leitor no início, hein? E portanto ele apreciava muito a poesia de Cesário Verde, de Pessoa, de José Régio, e portanto isso também nutriu a sua obra e ele instaura esse diálogo também com essa tradição literária. E como disse já no início, a questão é também tentar mostrar como é que evolui o cânon e até Saramago também era no início um autor algo subversivo, e hoje tornou-se um clássico.
Mas um clássico que em Portugal durante muito tempo era contestado mesmo. Hoje, digamos que uma parte dos intelectuais que não gostam de José Saramago, corresponde a uma realidade isso?
Sim, obviamente. Criticam. Há sempre os prós e os contras. mas Saramago teve o prémio Nobel e até à data ele é o único autor de língua portuguesa galardoado com o prémio Nobel. Portanto, sim, obviamente há sempre pessoas que podem não apreciar. Mas eu penso que a obra de Saramago continua muito estimulante, muito com uma qualidade excepcional.
Ora, neste coloquio vou ser abordado tudo uma série de coisas, reflexões sobre as margens, história e as histórias de Saramago e não só, até se fala de ecos cinematográficos. Precisamente a Silvia Mourinho que vai moderar este painel, Saramago e o cinema.
Sim, sim, porque houve várias obras de Saramago, vários romances que foram adaptados no cinema, e no início Saramago não era muito a favor dessa adaptação das suas obras, no entanto, existem esses filmes e coloca-se muitas vezes a questão da presença de Saramago, como é que se pode numa obra, num filme, integrar a voz do autor. E como é que se pode traduzir essa perspectiva do autor que aparece nos romances e que é uma dimensão fundamental do romance saramaguiano?
Sim, estamos a falar do ano da morte de Ricardo Reis, ou ainda da Jangada de Pedra, e a propósito da Jangada de Pedra. Muita gente viu uma espécie de metáfora, alusão, é como quem diz, como se Portugal se saísse da Europa, como se descolasse, não sei o quê, e fosse pelo oceano fora. Não sei se era uma crítica, bom, à construção europeia, uma coisa qualquer, mas tenho a impressão que isso foi visto um pouco nesse sentido, que Portugal estava fora da Europa, que Portugal se afastava da Europa, não sei o que é que pensa.
Sim, Saramago mostrava um certo ceticismo relativamente à construção europeia, porque ele achava que era uma construção económica, essencialmente, com bases mercantis, e não propriamente uma construção cultural, com aspectos mais humanos, com a ideia de desenvolver essas ligações entre os povos europeus. Mas, além disso, o facto da Jangada de Pedra, a Península Ibérica, se deslocar para o Atlântico, exato, era também uma espécie de metáfora dos países ibéricos enquanto elo entre a Europa e os países do Sul, portanto, as ex-colónias, nomeadamente, portanto, há também uma possibilidade de interpretar essa jangada como uma espécie de renovação dos laços com os países do Sul, com as ex-colónias. É uma aproximação relativamente a esses países numa perspectiva pós-colonial.
Bom, Madre, podemos dizer que, sobretudo para as novas gerações, há que descobrir ou redescobrir José Saramago e tentar compreender o que é que ele nos quis comunicar com a sua obra?
eu espero que este centenário seja uma oportunidade para os jovens descobrirem ou redescobrirem essa obra. Houve muitas ações, por exemplo, leituras em Portugal, integradas nos programas de ensino, para levar os jovens a lerem Saramago e portanto, a descobrirem essa autora.
E pelo, igualmente também num contexto, acho que isto é muito importante. Silvia Maria, muito obrigado, eu sei que vai estar presente aqui em Paris, amanhã depois. Sim. Portanto, amanhã é dia 17, entre as 9h30 e 17h30, Sabon de Nouvelle 4 Rue des Irlandais, Paris 5, e depois na terça-feira dia 18, entre as 9h45 e 17h30, Sorbon Université 17 Rue de la Sorbonne, em Paris 5, igualmente. A entrada, como é que é? É livre, é necessário? O que é necessário?
Para o dia de amanhã é livre, para o dia de terça-feira na Sorbonne é mais complicado, mas basta fazer, portanto, no programa há um mail e basta assinalar a presença. Portanto, a entrada é totalmente livre e gratuita, obviamente, mas é preciso assinalar para poder entrar, para poder aceder ao edifício.
Eu tenho um contacto, je.saramago2020@gmail.com.
Sim, portanto, os participantes que quiserem assistir às sessões terão apenas de assinalar, dar o nome, deixar o nome nessa morada.
E, aliás, se forem diretamente à internet, fazem coloque internacional José Saramago, Criação, Diálogo e Critique, tem todo um certo número de informações. Isso tudo, obrigado pelo vosso trabalho.
Muito obrigada.
E agora vamos até, ou um bocadinho mais, vamos até Givor, nem mais nem menos. Joana Brito, muito boa tarde.
Olá, muito boa tarde.
Muito obrigado por estar connosco. Já tínhamos falado há algum tempo atrás. Givor, vocês já, não digo, já fizeram as mãos, mas já desmontaram a exposição ou não?
Já desmontamos a exposição, sim. A exposição esteve exposta na Igreja de São Nicolau até ontem. Portanto, hoje a desmontagem já foi realizada.
Ora, precisamente, bom, antes de desmontar, vamos voltar um bocadinho atrás, apesar de tudo, porque precisamente nesta Igreja de São Nicolau está uma exposição, bom, quando se vê as fotografias via internet, e vocês têm um site que é excelente sobre isso, o site, isto vem a propósito, evidentemente, peço desculpa, a casa ao lado. Nem mais nem
exatamente.
Menos, e a Joana é cofundadora, aliás, com o Ricardo Miranda. Precisamente, o que é que vocês fizeram? Trouxeram, de uma certa forma, um aspecto de Vila Nova de Famalicão para Givor? O que é que vocês fizeram, exatamente?
Sim. Muito obrigada, antes de mais, pelo convite. O TIAD, Territórios Artísticos, portanto, é um projeto, é um dos recentes projetos da Casa ao Lado, que iniciou, teve a primeira edição em 2021, tivemos o azar de estar em plena pandemia, portanto, a ligação de Famalicão como cidade têxtil, com grande ligação às empresas, é bastante importante lá. Nós estamos sediados em Granada, Famalicão, portanto achamos que poderíamos utilizar essa importância que as indústrias, principalmente o têxtil, em Vila Nova Famalicão e interligá-las a nível pedagógico com as próprias escolas, com os estudantes, a compreenderem a evolução do têxtil, portanto, trabalhar os direitos humanos no contexto de sala de aula e compreender a evolução que o têxtil teve mesmo nesse desenvolvimento do trabalho fabril e do trabalho empresarial, e mostrar-lhes que também não é o mesmo trabalho que antigamente, não é? Que os próprios pais e avós lhes passam, que hoje em dia é uma inovação tão grande e tão moderna que muito interessante também, portanto, porque cada vez menos existem jovens a querer também seguir esse próprio caminho. E depois, queríamos que eles tivessem essa visão desse trabalho têxtil de um ponto de vista artístico. Essa é a base principal do projeto.
Mas vocês fazem o que eu poderia chamar, ou o que vocês chamam, não é? Arte pública urbana. De maneira que isso interpela-se diretamente às pessoas, mesmo relativamente aos presidentes de Câmara e não só. De maneira que vocês, de uma certa forma, não digo dão um pontapé na formigueira, mas não estão longe disso, na medida que vocês querem que seja um projeto inclusivo. Arte, cultura, isso tudo devem fazer parte da nossa sociedade, de hoje e da futura sociedade.
Sim. Para nós isso é essencial. embora na casa ao lado nós tínhamos todos a base de artistas plásticos, não é? Somente nós trabalhar num projeto, do nosso ponto de vista, pronto, não chega. Não achamos que se deixa uma marca suficiente, por assim dizer. Achamos que o trabalho em comunidade é que realmente muda algo. Portanto, além de haver uma compreensão muito maior de qualquer projeto em que os participantes entendem que existe um princípio, meio e fim, portanto, algo criativo não surgiu do nada. Ah, somos criativos, portanto, vamos ali e fazemos qualquer coisa, não é? Portanto, eles percebem que existe um processo. Também depois deixam a sua própria marca. Portanto, qualquer projeto depois é mantido pela própria comunidade em que o trabalha. É protegido. Portanto, eles deixam uma marca deles para sempre nessa comunidade.
Aliás, vocês trabalham em muitos sítios, mas já leremos, porque entretanto eu queria falar 2023 e Givor, mas disso falaremos um pouco mais tarde, porque vocês são um clube UNESCO. O que é que isso implica exatamente?
A Casa Lado como clube UNESCO tem exatamente, portanto, trabalha principalmente exatamente nesse processo. Portanto, como os trabalhos são sempre comunitários, e tentamos, por exemplo, mesmo neste caso do TIAR, em que a Comissão Nacional da UNESCO é uma das parceiras, é este trabalho da ligação, da pedagogia com as empresas e com os direitos humanos, haver essa compreensão da importância que dos direitos humanos, fez com que a Casa Lado também entrasse na Comissão Nacional e na UNESCO como clube. Penso que essa importância do nosso trabalho como comunitário.
Sim, mas o vosso trabalho, quer dizer, vocês bom, trabalham com as escolas e não só isso, mas vocês têm, para além do aspecto artístico, também vocês têm o aspecto pedagógico, acho eu. Por isso é que no início eu falei de inclusive, é um projeto inclusivo, é como quem diz, quer dizer, é viver em sociedade, porque vocês trabalham com muitos jovens e não só, de maneira que é esse princípio, de viver em sociedade, o que hoje, onde há um grande individualismo, não é nada fácil, mas vocês também têm essa função.
Sim. Basicamente, os jovens, as crianças, os jovens, adultos, portanto, temos projetos para diferentes faixas etárias que compreendam que em conjunto conseguem realizar algo. Portanto, que através de individualidade, logicamente que é importante, mas cada vez mais há essa individualidade e cada vez mais nos acabamos um bocadinho por distanciar. E estes projetos acabam por se conseguir que eles compreendam que em conjunto conseguem realizar um objetivo comum e que até muda algo, não é? Até requalifica um espaço ou até fala das histórias, das lendas ou das personalidades de um local. Portanto, eles até próprios conseguem depois tirar partido, porque nós achamos sempre que os projetos são um ponto de partida quando estão terminados, entre aspas, a nossa parte, por assim dizer. Porque depois o que nós achamos importante é as comunidades tentarem tirar partido do que foi feito em conjunto com eles e depois poder criar turismo criativo, criar merchandising até das próprias imagens que ajudaram a criar, criar primeiros empregos. Portanto, há uma possibilidade enorme de situações que podem ser realizadas a partir de um ponto de partida que foi realizado em comum.
E a propósito de ponto de partida, será a minha última questão, Joana Brito. Precisamente, vocês já estão a abrir as portas ou querem dar uma continuidade, precisamente, à preparação para o TIAR Territórios Artísticos 2023. Vocês abrangeram cerca de 300 alunos de diferentes escolas, de maneira que vai ser um ponto de partida. Esta vossa vinda foi um ponto de partida de uma nova aventura.
Sim. Além da mostra ser alguns dos resultados da primeira edição, nós trabalhamos com cerca de 300 crianças e jovens das várias escolas de Givor, em que, através de oficinas, já estiveram a criar imagens para se utilizar no TIAR 2023. Portanto, a tal importância de eles verem algo que foi realizado por crianças e jovens de Vila Nova Famalicão e não só, que participaram algumas universidades da Galiza, mas eles entenderem que vão participar em algo que vai estar em conjunto com outras comunidades, vai ser visto por outras pessoas, não somente a comunidade onde eles estão inseridos, e até os trazer, porque não, a Portugal, para verem o ponto de vista de como é que vai ficar o primeiro resultado da segunda edição. Portanto, isso é que é o importante para nós.
E nós também vamos seguir isso a passo e passo. Muito obrigado, Joana Brito. Relembro o fundador do Centro Artístico A Casa ao Lado, um projeto extraordinário. Muito obrigado e até muito breve. Oh,
obrigada a nós. Nós é que agradecemos. E muito obrigada.
Boa continuação.
Passagem de Nível, o encontro semanal de informação na Rádio Alfa.
Passagem de Nível.
Aos domingos, entre as 12 e as 14 horas, com Arthur Silva.
Esse dimanche 16 octobre, nous entamons la deuxième heure de passage à niveau avec rediffusion, j'appelle, de la nuit du mercredi au jeudi, à partir de 0 heure. Émigration, monde rural et féminisme, ce sont les thèmes principaux du Festival Amadora BD, 33e édition du Festival international de bande dessinée Amadora au Portugal, justement, os portugueses. Une exposition sur l'immigration portugaise. Et ça, bien sûr, autour de la présence d'Olivier Fonce et de Chico. Olivier Fonce qui est à nouveau avec nous. Bonjour.
Bonjour, vous allez bien?
Ça va, c'est à vous qu'il faut demander ça. Alors, vous avez déjà préparé votre valise pour aller au Portugal ou pas?
J'ai encore un tout petit peu de temps parce que je serai là-bas fin octobre.
À fin octobre, oui. Donc, ouais. Le festival, il démarre, justement, bientôt, quoi.
Ouais.
Et, justement, alors, cette invitation, parce qu'il faut dire que, bon, les Portugais, édition Arène BD, justement, bon, on vous a reçu ici dans les studios. Alors, c'est en résumé, comment est-ce qu'on peut présenter ça? Parce que quand on voit cet nombre de critiques, et pas seulement, alors je résume, en 1973, deux jeunes gens d'origine portugaise s'installent clandestinement en France, jouant les maçons dans diverses entreprises de BTP, histoire attachante, une génération d'immigrants. Alors ça, c'est le titre d'une critique. Alors, jouant les maçons, qu'est-ce que vous pensez de dire ça, finalement? On jouait, c'était notre vie, notre avenir, et pas seulement, non?
Ouais, c'est vrai que je ne suis pas tellement responsable des critiques qui sont faites, qui sont parfois, malheureusement, très maladroites. Mmh. Et c'est vrai que je ne pense pas que les immigrés portugais arrivaient pour jouer, participer à un jeu. C'était plutôt, ils jouaient leur vie, peut-être, ouais. Mmh. Mais de façon, involontaire. Mais oui, c'est parfois les journalistes utilisent des termes un peu à côté de la plaque.
Voilà, mais j'ajoute une louche, hein, Olivier. Justement, ça, je l'ai trouvé dans Planète BD. Hein.
Ouais.
Alors, ce qu'on pense sur la Planète BD, donc le texte finit par « Ce road movie maçonnique » avec deux C, est accompagné par un dessin jeté dynamique de Chico, alias Aurélien, mais toujours très juste, qui rappelle par moments le style larcené au blin. Alors, un road movie maçonnique. Alors vous êtes au cinéma, vous avez un regard là-dessus?
Je crois qu'ils sont constamment en train d'essayer de chercher des formules magiques avec des termes renouvelés maçonniques. Je crois que souvent, d'ailleurs, j'ai eu cette remarque, les gens pensent, on associe l'immigration portugaise parfois à quelque chose d'humoristique, etc. Et il y a des gens qui ont eu peur justement que cette BD soit, encore une fois, une énième histoire avec beaucoup d'humour et principalement que ça, alors que pas du tout. Il y a de l'humour, il y a aussi des choses plus dures, il y a de la tendresse, il y a tout. Et j'ai l'impression que beaucoup de gens, beaucoup de Français, ont découvert l'immigration portugaise et se sont rendus compte que ils avaient vécu des choses assez dures, les gens, en fait, et que c'était assez difficile. Et voilà, et peut-être quelque part, c'est une gêne, en fait, le fait d'essayer toujours parler d'humour pour se rendre compte que c'est une partie de l'histoire qui est méconnue et qui mériterait à être un peu plus connue, quoi.
Mais finalement, avec cette histoire de critique de Planète BD, c'est pas pour scamoter le vrai problème, le drame de centaines de milliers de Portugais qui ont dû partir du pays, ceux qui partaient pour des causes économiques, c'était politique aussi, d'autres pour pas faire la guerre coloniale. C'est pas une façon de scamoter et de présenter les Portugais, les grands aventuriers. Alors, quand on parle d'aventure à votre père, parce que je pense que votre père est quand même à la base de cette BD Les Portugais. Alors, aventure, on est parti comme ça, en road movie. Bon, est-ce que c'est pas pour scamoter ça, pour dire que, finalement, les Portugais, on les connaît
Mais je sais pas trop. Je pense que c'est peut-être. Je crois que c'est une façon, encore une fois, maladroite d'être gentil, mais encore une fois, ils sont un petit peu à côté de la plaque. Parce que c'est vrai que nous, on a voulu raconter une histoire qui soit pas misérabiliste ou larmoyante. On a voulu quand même que cette histoire soit pleine d'espoir. Parce que moi, je trouve que malgré tout, il y a quand même beaucoup d'espoir dans tout ça, même si c'est très dur. Mais je pense que c'est de la maladresse, une façon un peu maladroite de dire qu'ils ont aimé cette bande dessinée. Et surtout, on a eu des super retours de gens qui, au contraire, étaient là en train de dire « c'est incroyable, je connaissais pas, ça m'intéresse, est-ce que je peux lire d'autres choses ? Est-ce qu'on peut en discuter ?» J'ai même été invité à des discussions, alors que franchement, je me sens pas légitime. Moi, il vaudrait mieux inviter les personnes qui l'ont vécu. Et encore une fois, ouais, je crois pas qu'il y ait de la malveillance. Je crois que c'est de la maladresse.
Maladresse, bon, d'accord. Bon, vous êtes très diplomate. Bon, Olivier Fonce. Alors, justement, cette invitation, vous avez même participé, je pense, à des conférences universitaires, parce que c'est votre regard aussi, parce que pendant des années, vous méconnaissez en grande partie tout ce que votre père et votre mère ont dû subir avant d'arriver en France et en arrivant en France. Pour vous, Oui. Pardon.
Oui, c'est sûr que... Non, c'est moi, pardon. C'est sûr que, en fait, j'ai appris énormément de choses après. Parce que ce qui est quand même agréable, c'est que je pense et j'espère que ça sera la même chose pour cette traduction en portugais, parce que c'est la BD portugaise qui sort au Portugal, à Amador. C'est que j'ai eu accès à des informations que je n'avais pas eues avant. Les gens, en fait, cette BD a permis de discuter. Il y a des gens qui sont venus me voir pour me dire « Ah, ça s'est exactement passé comme ça pour mes parents, pour moi, ou pour mes cousins, ou pour ma famille. » Et d'autres, au contraire, se sont dit « Mais je ne me suis pas du tout reconnu dans cette BD, ça s'est pas du tout passé comme ça. Moi, c'était autrement, etc. » Et moi, je trouve ça bien parce que ça permet aux gens de discuter. Et il y a même des dames qui ont des petits-enfants et qui m'ont dit « C'est bien, comme ça, je vais pouvoir leur montrer ce qui s'est passé, je vais pouvoir leur montrer ce que moi j'ai vu, leur raconter ce que j'ai vécu, etc. » Et ce qui est agréable, c'est de se rendre compte que cette BD a permis ça pour certaines personnes, et la plupart du temps, on a des très très bons retours, quoi. Surtout des gens issus de l'immigration portugaise, mais aussi des personnes qui, justement, sont pas du tout issues de l'immigration, qui sont français, et voire même, il y a des Espagnols, des Italiens qui nous disaient « Mais mes parents, ils ont vécu la même chose. » Donc ça j'avoue que c'est notre plus grande fierté par rapport à cette BD.
Mais on pourrait dire que votre travail est celui de Chico, en quelque sorte. Bon, c'est une analyse sociologique, bon, je sais pas, une étude, mais bon, ça manque, hein, par rapport à la communauté portugaise, justement. Mais finalement, c'est une façon de montrer les choses, d'obliger les gens à réfléchir vers vous. Ça a commencé par vous. Vous êtes obligé de réfléchir par rapport à vous-même. Vous m'avez raconté même, bon, heureusement que vous étiez grand, donc à l'école, le fait que ce soit portugais ou pas, on n'osait pas trop vous embêter. Votre sœur, ça n'a pas été pareil. Donc, c'est une genre d'analyse sociologique, finalement, de l'arrivée de l'immigration, de la société française, parce qu'en filigrane, il y a tout ça aussi.
Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais il y a un monsieur, un politique que j'ai rencontré, qui m'a dit que pour lui, cette BD, c'était un miroir. Pour lui, il le voyait comme un miroir, qui permettait aux gens de se voir ou non dedans. C'est-à-dire que ça permettait de justement réfléchir à ça. Alors encore une fois, moi, j'ai vraiment pas, et sincèrement, j'ai pas eu cette prétention de vouloir m'approprier une histoire ou d'en faire quelque chose de très intellectuel ou journalistique ou sociologique. Mais si par la force des choses ça en devient, bah, je dois jouer le jeu, je dois participer à ça, je dois écouter les gens, je dois ouvrir à la discussion. Et c'est vrai que des fois, je me retrouve dans des situations où c'est assez difficile, parce que je suis face à des gens d'une intelligence incroyable, d'une connaissance folle, et qui avancent des propos et qui me placent au même niveau qu'eux. Et je suis là, je lui dis, mais non, mais moi, je suis juste un conteur, quoi, quelque part. Mais c'est vrai que c'est un conteur, je dois être un conteur responsable. C'est-à-dire que je dois aussi comprendre, comme tout à l'heure, pourquoi des gens se sentent obligés de ramener à l'humour. Parce que je pense que quelque part, il y a un malaise de dire, ok, il y a les Portugais, mais il y en a d'autres aussi, issus d'autres immigrations, qu'on a délaissés, à qui on s'est pas intéressé. Et on ramène toujours une forme de légèreté, parce que quelque part, le sujet est quand même sérieux et douloureux pour certains, et il ne faut pas le sous-estimer.
Oui, par rapport au portugais, il y a quand même un certain paternalisme de la part de la société française, parce que si c'était aussi, ah, c'est très bien, vous avez bien fait, etc., il y a des immigrés qu'aujourd'hui sont en train de vivre des situations, les bidonvilles, ça continue, hein, c'est, donc, ça compte pas parce que, bon, peut-être parce qu'ils sont pas très blancs, très catholiques, etc. Bon, mais enfin, ça nous amènerait, une autre planète. Alors, Olivier France et Chico, il faut pas l'oublier, Aurélien.
Non. Donc,
c'est Arnold Jolivres qui a fait la traduction.
Oui.
Vous avez suivi d'après.
Oui. On a la chance de travailler avec eux, c'est une maison d'édition assez incroyable, une maison d'édition familiale, qui font ça en famille, et qui ont mis beaucoup de cœur à l'ouvrage, ils nous ont fait des propositions, ils se sont intéressés à comment on pouvait améliorer cette BD, ils s'intéressaient au public portugais, on a changé la couverture d'ailleurs pour ça, parce que pour eux, on avait deux couvertures, la première qui est française, qui est plutôt l'exode, le voyage, et la deuxième qui est plus une image qui représentait les Portugais dans les bidonvilles, parce qu'ils se sont dit, les gens ici, ce qui les intéresse, c'est de savoir ce qui s'était passé dans les bidonvilles. Ils savent que des gens sont partis, donc et cette image était plus parlante pour eux, et nous on est contents parce que c'est vrai que c'est une belle image. Moi je trouve que la couverture est assez belle, ils ont fait un super boulot, et ils avaient envie de rajouter une préface, c'est Manuel qui a fait une préface. On sentait qu'il y avait beaucoup d'amour et beaucoup d'envie. D'ailleurs, on a une exposition à Amadora.
Oui, tout à fait, oui, c'est ça.
Sur la BD. Vraiment, beaucoup, beaucoup d'amour autour de notre travail. Et on se sent bien, on se sent super bien. Et ça fait plaisir.
Alors, Olivier, donc on attend. Moi, j'ai pas encore vu la couverture, la couve. Hein.
Ouais.
Et ça, je vous avoue franchement. Donc, on attend justement que je puisse avoir le livre dans les mains, que je puisse vous inviter à nouveau et surtout faire une présentation en France aussi. Donc, ça sera à partir du 22, justement, du 20 au 30 à Madoura, 33e édition Festival International de Bande Dessinée. Alors, parallèlement, hein, il va y avoir la présentation du film N'effacez pas nos traces de Dominique Grange. Une chanteuse engagée, justement, et le metteur en scène, Pedro Fidalgo. Quelqu'un comme vous aussi, qui a réalisé ce film, ce documentaire va être présent aussi. Oui, ce sera samedi 22, vous arrivez un peu plus tard.
Oui.
Olivier France, merci, bon voyage. Donc, on attend, ou je portugais, et de la version portugaise. Merci, et à bientôt.
Je vous l'envoie très vite. À bientôt.
Merci, à bientôt.
Au revoir.
Et oui, dans quelques instants, comptons ir até Dakar, à Sénégal. Et on revient au direct passage à niveau ce dimanche 16 octobre. Chose promise, chose due, on part à Dakar. Monsieur Abou Aïdara, bonjour.
Bonjour, monsieur, bonjour.
Merci d'être avec nous d'aussi loin, mais aussi près. Aussi près, c'est au sujet de votre travail, un livre, Le rôle de la littérature dans le processus de décolonisation, en Afrique lusophone, l'Armatan Sénégal. Alors, tout un travail. Alors, il faut dire aussi que vous êtes professeur à l'UQAD, à Dakar, enseignant titulaire de la littérature portugaise. Que les choses soient dites, vous avez déjà publié deux ouvrages par rapport à l'Afrique lusophone, l'envers de l'épopée portugaise en Afrique en 2000 et l'influence des guerres de libération africaine sur la révolution des œillets qui date de 2012, toujours sur l'Armatan. Alors pour commencer, on pourrait dire que finalement il y a très 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 peu d'études sur la littérature des pays lusophones en Afrique et pas seulement.
Ah oui, effectivement il n'y a pas beaucoup d'écrits sur l'Afrique lusophone dans l'espace francophone et dans l'espace anglophone. Bon, c'est dû effectivement au fait que le problème de la langue, le portugais n'est pas enseigné pratiquement dans tous les pays africains. Le Sénégal effectivement fait exception parce que depuis le temps de Senghor aimait beaucoup la langue portugaise. Je crois qu'il était fasciné par la culture lusitanienne. Donc, dès le départ, il a essayé de créer des relations avec les pays lusophones, notamment le Portugal et le Brésil.
Alors, monsieur Adara, il y a une course différente, justement. Déjà, ça concerne les indépendances des colonies. Parce que les colonies françaises et anglaises, bon, ça a été bon, une indépendance accordée, entre guillemets. Tandis qu'aux colonies portugaises, il y a eu une lutte armée. Finalement, est-ce que la littérature dans les pays d'expression lusophone, africains d'expression lusophone, ça a été leur première arme de combat, de lutte?
Bon, effectivement, parce que en 1960, l'ONU avait décidé, effectivement, avait demandé aux puissances coloniales de décoloniser. La plupart des pays africains, à cette date, ont reçu leur indépendance. Mais le Portugal a fait exception. Le Portugal a refusé de décoloniser sous prétexte que les colonies étaient liées à la métropole par des liens de sang, notamment le caverne, notamment le Saint-Tomé et Principe, mais pour l'Angola, ça laisse c'est pas le cas. Mozambique, c'est pas le cas. Guinée-Bissau, c'est pas le cas. En vérité, c'est dû au fait que ces colonies-là apportaient beaucoup de richesses au Portugal et constituaient en quelque sorte un supplément économique, quoi. Donc c'est pour cette raison essentielle que le Portugal n'a pas voulu décoloniser, n'a pas voulu respecter en fait les recommandations de l'ONU, ce qui fait que les intellectuels africains de l'époque qui étaient au Portugal à la maison des étudiants de l'Empire étaient sensibles à l'évolution politique du monde et des pays africains. Eux aussi, ils voulaient leur indépendance. Dès lors que le dialogue n'était pas possible avec le Portugal, ils ont décidé effectivement de créer ce qu'on appelle les mouvements de libération, le PAIGC, le Frelimo,
l'MPLA,
etc. C'est à partir de ce moment-là, parce qu'ils avaient décidé effectivement de conquérir l'indépendance par les armes.
Alors, il y a une différence aussi en ce qui concerne la littérature africaine. La littérature luso-africaine annonçait l'existence de la future nation. Alors, les écrivains s'éloignent, disons, de ces confessés un petit peu. Vous dites même qu'il y avait une littérature de consentement qui a prévalu en Afrique francophone et anglophone.
Mais effectivement, ça, c'est une différence de taille qui a été prouvée par de grands chercheurs. Et nous avons un éminent professeur, Major Diouf, qui a fait sa thèse sur ça, effectivement. Et je le cite dans mon ouvrage. Il confirme effectivement que la littérature francophone d'Afrique et d'anglophone, des pays d'Afrique anglophone, sont des littératures de consentement. C'est-à-dire, en fait, ils ont dénoncé les aléas du colonialisme, mais en fait, ils ne sont pas allés jusqu'au bout. Ils n'ont pas dénoncé totalement. Ils n'ont pas voulu une rupture totale. Tandis que chez les Portugais, ils ont milité en faveur de l'indépendance totale, du rupture avec la métropole, et ça se reflète dans leurs écrits. Et là, dans le livre, je démontre effectivement que dans l'espace francophone, que je connais bien, vous avez les soleils des indépendances de Courmont, un auteur très connu, vous avez Aminta Sofal, vous avez l'aventure ambiguë de Cannes, mais dans ces livres, on constate effectivement que le héros est partagé entre deux tendances. Il ne rejette pas totalement la culture française, mais il ne rejette pas non plus, il n'abandonne pas totalement aussi sa culture sénégalaise, donc il est entre les deux, ce qui fait que c'est une culture de consentement, de conciliation entre en fait deux cultures différentes. Tandis que chez les Portugais, chez les auteurs lusophones, ce n'est pas le cas. Ils ont attaqué systématiquement en fait le système colonial portugais. Ils ont cherché même la rupture totale, quoi, effectivement.
Alors, ce qu'on sait justement, cette littérature luso-africaine, en quelque sorte, je pense qu'elle a eu un rôle de substitution pour pallier l'inexistence de documents écrits. Certaines façons, c'est la littérature lusophone qui a réécrit l'histoire d'une certaine forme.
Mais absolument, c'est un élément fondamental de cette littérature. Le mal de l'Afrique, le mal dont souffre l'Afrique, c'est que les étrangers, les colonisateurs européens, ont nié l'histoire, ont nié la culture, ont nié en fait tout ce qui fait l'identité de l'Afrique, dès lors que la culture africaine, l'histoire africaine est basée sur l'oralité. À partir du moment où il n'y a pas de document écrit, il était facile en fait d'effacer cette histoire, de la nier, de la renier même. Alors, maintenant, le problème des écrivains, c'est que l'Afrique était divisée, il y avait des ethnies un peu partout, Mais pour les besoins en fait de la lutte nationale, il fallait réunir pratiquement en fait toutes ces populations-là. À partir de ce moment-là, comme on le dit, un peuple sans histoire est un peuple sans âme. Il fallait donc essayer de réunir en fait tous les documents qui attestent en fait de l'authenticité de l'histoire africaine. Dès lors que l'histoire est orale, dès lors que les cultures tout est oral, il fallait nécessairement en fait essayer de trouver un moyen de substitution, et ils ont trouvé ça à travers la littérature. La littérature donc a servi justement de moyen de reconstituer en fait l'histoire africaine. Ce qui veut dire que si on étudie l'histoire africaine, effectivement, on trouve des éléments en fait qui ont eu des racines historiques.
Voilà. Contrairement à un ancien président de la République, pour pouvoir le nommer, M. Nicolas Sarkozy, dans son discours de Dakar, bon, à propos d'histoire. Alors, revenons un petit peu en arrière. Ce qui a quand même un texte, je pense, qui est déterminant dans tout ça, c'est Sagrada Esperança de Agostinho Neto. Donc, vous mettez en relief ce texte-là comme si c'était une base de ce mouvement de la littérature luso-africaine.
Oui, en fait, ça, c'est un texte fondateur. Hein, puisque Sagrada Esperança, c'est relatif justement à ce projet, à ces perspectives en fait, de lutte qui se dessinent devant les nationalistes africains. Il n'y avait pas de nation, il fallait donc créer une nation. Et comment créer une nation? Évidemment, la littérature était le seul moyen, puisque les conditions ne permettaient pas d'initier, en fait, dans l'immédiat, la lutte armée. Il fallait donc initier la lutte à travers la littérature. Alors, ce qui caractérise Sagrada Esperança, comme le titre l'indique, espérance sacrée, c'est que pour Neto, cette lutte-là est une lutte fondamentale, elle est sacrée. C'est-à-dire que la conquête de la nation, il le dit d'ailleurs dans son roman, Avemos de voltar às nossas casas, Avemos de voltar às nossas terras, Avemos de voltar às nossas minas de diamantes, etc., etc. Donc son vœu sacré, c'est effectivement de retrouver tout ce patrimoine perdu, qui a été, disons, aliéné par l'occupant colonial. Donc, cette lutte-là est une lutte fondamentale, c'est un sacerdoce. Donc, il fallait réunir les conditions. Militairement, ce n'était pas possible, donc il fallait le faire à travers la littérature. Autrement dit, c'est une littérature optimiste. D'ailleurs, en général, toute la littérature lusophone est une littérature optimiste. Malgré les difficultés, malgré l'étau dictatorial, malgré la pite, tout cela, malgré toutes les contraintes, en fait, ils avaient espoir qu'un jour, justement, cette nation-là allait exister.
Voilà.
Ils ont confié cette tâche à la littérature.
Justement. Tout à fait. Et c'est la lutte, libération des peuples des anciennes colonies portugaises qui a permis aussi le 25 avril 1974 au Portugal le renversement du fascisme. Alors, il y a un autre texte, je pense, moi, il a été écrit beaucoup plus tard. Il s'agit de No Pinche de Américo Cabral.
Ah. Là aussi, c'est une figure éminente de cette lutte de libération, un stratège politique, un stratège militaire, effectivement, qui a marqué justement l'histoire de la décolonisation. Il y a même des historiens qui disent que c'est le plus grand stratège, en fait, de l'histoire en matière de lutte de libération, effectivement. Alors, Cabral, son souci, effectivement, comme Neto, comme tous les autres, c'était de libérer, justement, les colonies. Mais lui, en fait, il s'appuie sur la culture. Avant d'initier la lutte, en fait, il faut réafricaniser, en fait, les esprits. C'est-à-dire amener les Africains à penser qu'ils sont Africains dans le vrai sens du mot, désaliénés, essayer de rompre, justement, avec l'influence de la culture occidentale. C'est cette base première qui constitue justement le point de départ pour toute lutte armée. Et l'histoire lui a donné raison, parce que on s'est rendu compte que les pays africains qui ont eu l'indépendance, aussitôt sont revenus vers la mère patrie, et jusqu'à présent, l'Afrique souffre de ce phénomène-là. Le patriotisme, en fait, qui devait être à l'avant-garde, n'existe pas. L'aliénation culturelle existe encore, qui fait que les Africains n'arrivent pas à se détacher de l'influence occidentale, surtout l'influence culturelle.
Oui, sans oublier la domination économique, justement, des multinationales, j'en passe les meilleurs. Monsieur Abou Haïdara, une dernière référence, et je pense que j'aimerais bien que vous puissiez développer un petit peu, c'est ce différent, un conflit énorme, entre Léopold Senghor et Amílcar Cabral. Et ça, je parle surtout, c'est au sujet d'une rencontre entre Senghor et Spinola, le fameux militaire monocle, etc. Bon, ça, c'est extraordinaire comment est-ce que Senghor et Amílcar Cabral étaient complètement opposés à ce qui concerne justement l'indépendance nationale.
Ben, vous savez qu'à l'époque, en 60, bon, il y avait l'influence des deux blocs, que sont le bloc capitaliste et le bloc
soviétique-socialiste, oui.
Justement. Donc la plupart des pays du monde étaient alignés sur ces deux blocs-là. Évidemment, il y avait des pays africains qui étaient déjà affiliés au socialisme, et tous ces dirigeants nationalistes qu'on vient de citer, Neto, Cabral et les autres, tout ça, c'était des marxistes, léninistes. Mmh. Donc, ils avaient en fait des relations très étroites avec les pays socialistes. D'ailleurs, je le démontre dans d'autres livres. Allô, vous m'entendez?
Oui, tout à fait, monsieur Haïdara, voilà. Oui.
Donc, c'est grâce à cet appui que les pays africains en lutte ont pu gagner cette guerre. Alors, il se trouve que Cabral était marxiste, Senghor, avait une position très ambiguë. Mais en réalité, il était du côté du monde occidental.
C'est évident.
Parce que Senghor, dans un premier temps, n'a pas voulu ouvrir son pays au PAIGC, ce qui fait que le PAIGC était obligé, en fait, de se rabattre sur la Guinée de Sékou Touré. Les bases du PAIGC, en fait, se trouvaient en Guinée Sékou Touré. Cabral même est mort en Guinée.
Oui, assassiné par les fascistes, pas seulement, par des traîtres aussi.
Voilà, un complot international, dit-on.
Voilà.
Alors, ce qui fait que Senghor n'a pas, manifesté des positions, en tout cas, très réelles, vis-à-vis de Cabral et du PAIGC. C'est après, effectivement, quand le PAIGC a pu lutter et libérer la partie sud de la Guinée-Bissau et, déclarer l'indépendance unilatérale à Medina de Boué, que Senghor a compris effectivement que le PAIGC, vraiment, elle était le parti qui représentait, la lutte armée en Guinée-Bissau.
Voilà.
Senghor, effectivement, avait des affinités avec d'autres dirigeants. Et les a même abrité à Dakar, le Fling de Benjamin Pinto-Boul. Et c'est justement ce Pinto-Boul-là qui a introduit en fait l'enseignement du portugais au Sénégal. Mais ce Pinto-Boul était plutôt du côté de Salazar. Il appuyait un peu en fait le système colonial. Il voulait des réformes, mais pas l'indépendance.
Voilà.
Tandis que Cabral voulait l'indépendance totale.
Ouais.
Ce qui fait que quand il s'est agi de faire une réunion pour discuter sur ces questions-là, Cabral devait y aller, mais pour une question de sécurité, au dernier moment, il a désisté. Et c'est Senghor qui l'a représenté là-bas, parce qu'effectivement, l'OUA de l'époque, les chefs d'État africains, étaient des parrains. Quelque part, ils défendaient en fait les intérêts des partis nationalistes à l'ONU et dans certaines instances internationales. Quoi. Ce qui fait que c'est Senghor qui l'a représenté. Mais Senghor, quand il est venu, alors, il a déclaré que il a eu un accord avec Spinola, qui était le général des forces armées en Guinée-Bissau et qui représentait les intérêts du Portugal. Senghor avait milité en faveur de la création d'une vaste union lusophone, comme en 58, ce que De Gaulle avait proposé quand les pays africains réclamer leur indépendance. De Gaulle avait préconisé en fait la création d'une vaste union française qui regrouperait pratiquement tous les pays africains. À ce moment-là, il n'y aurait pas l'indépendance. Cabral, lui, en fait, son option était autre, très différente, diamétralement opposée. Il a dit en fait que Senghor ne représente pas les intérêts en fait du PAIGC, de la Guinée-Bissau. Il a rejeté donc les conclusions.
Tout à fait. Monsieur Abou Haïdara, je vous remercie. Donc, je rappelle votre travail. J'ai soulevé certains points qu'on peut trouver dans votre livre et on peut réfléchir et connaître mieux l'histoire du monde, parce que l'histoire du monde s'est passée aussi par les luttes de libération des peuples opprimés en Afrique. Merci. Donc, je rappelle le titre de votre livre, Le rôle de la littérature dans le processus de décolonisation en Afrique lusophone, chez l'Arbaton Sénégal. Très important. Merci, monsieur Adara. Il y a très bientôt, parce qu'on va parler des deux autres livres dont j'ai fait état au début. Merci, à très bientôt.
Très bien, merci beaucoup et à bientôt.
À bientôt.
Maneira de ser, olha a minha sensível, na boa maneira de ver, sensível, quando toyó, e até na boa maneira de mexer, sim, me é sensível, na boa maneira de viver, viver de um criola que tá maluta, longe desta terra. Esse povo, sim, me é sensível, na boa existência, já me dá bom apoio, bem merecido, cabo negamon. Escavor de amigo, hoje vida tem qualquer coisa na separência. Cabonega em ajuda, oh irmã, sou cabonega, cabonega.
Um extrato do tema Mie Sensível de Jovino dos Santos. Jovino dos Santos, muito boa tarde e obrigado por estar connosco.
Boa tarde, Artur. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Alfa.
Ora, o novo álbum com um old amigo Cabral, falaremos nisso. Aliás, vai ser a última página musical que vamos passar para terminar esta emissão. Precisamente, ainda falamos de amigo Cabral em instantes, estive em direto com Dakar para falar de um livro da LOL, La Littérature dans le processus de décolonisation en Afrique lusophone. Alors, Jovino, para o próximo ano, 2023, faz 53 anos, que foi publicado o primeiro EP45, como se chamava na altura, não é?
Sim, sim. É verdade, na altura foi, parece-me que era o Tony Silva, ou qualquer coisa assim, que fez o primeiro LP sobre Amílcar Cabral. Mas pronto, como já lá vão assim muitos anos, uhum. E que o Amílcar, para mim, é uma das fases... É uma das figuras que não se pode esquecer dentro da comunidade, não só cabardiana, mas lusófona.
E não só. E africana não mesmo. Só.
Africana mesmo, pois. De maneira que eu achei conveniente trazer de novo um novo regar, como diz, um novo
olhar,
uma nova maneira de olhar sobre o Amílcar, quem foi o Amílcar, o que é que ele fez. E que o povo devia lhe dar muito mais consideração do que tem dado. Estou a falar disso em Cabo Verde, mas eu acho que é mundialmente, estás a perceber?
Com efeito. Mas, Jovino, voltemos a alguns aninhos atrás. O Café Cantante, no Mindelo, e a tia na Camila.
Minha Camila, sim. Minha Camila era minha tia. A minha tia possuía um café que toda a gente lhe chamava o Café Cantante. Estás a perceber? Porque, e o nome ficou. Então chamavam minha Camila de Café Cantante. Porque toda a gente ia no café, era um café onde havia músicos, toda a gente cantava. E então o nome ficou, o nome de Café Cantante ficou aí. E ela e o marido, que na altura tinham esse café, como tinham outras atividades também, mas o Café Cantante é o que mais ficou ali em São Vicente, na época, que toda a gente lhe conhecia, punha Camila de Café Cantante, claro, porque...
Mas isso teve uma influência enorme em ti, principalmente com a abertura à música, porque havia músicos, havia... aquilo fez parte do teu ambiente quando eras criança.
Que quando eu era criança, havia aí ao lado da minha casa um café que era da Dona Nezinha do Cruzeiro, que era aí na Rua de Coco, há um cruzeiro. E então, nesse café, que era o café da Dona Nezinha, um dos marujos brasileiros ou outros, e de passagem, iam lá para ouvir música de Cabo Verde, que era tocado na época por... Lela Preciosa, que é um grande guitarrista, o Luís Randa, que foi um dos melhores guitarristas que tivemos em Cabo Verde, como o Tazinho, e todos aprenderam com o Luís Randa. E eu, de criança, quando eu passava aí ao pé desse café, só a sonoridade que eu apanhava na época, é que vinham muitos brasileiros de passagem a São Vicente. Então queriam ouvir os músicos cabo-verdianos tocarem. E esses músicos vinham lá e faziam buff, como se diz em francês, troca de impressões entre cabo-verdianos e brasileiros. E nós, em Cabo Verde, aprendemos muito com a música brasileira da época. Hoje é menos com essa história de novela, coisa outra, mas no nosso tempo havia muita coisa que a gente aprendia na expressão brasileira.
Mas, Jovino, podemos dizer, bom, que foste ali amamentado, tu passaste uma espécie de biberon, mas a nível musical, vais para Portugal e depois vinda para a França aqui em finais dos anos 70, aí foi uma grande, grande mudança na tua vida como autor, compositor e intérprete, não foi?
Sim, foi, porque eu quando vim para a França, pouco percebi da música, sabes? E então, pouco, porque em Cabo Verde mesmo, pessoas amigas e conhecidas queriam que eu aprendesse a tocar, mas não era um momento exato. Na vida, creio que há sempre aquele momento que as coisas chegam em nós, sem nós tomarmos conhecimento, estás a perceber? E eu, no fim dos anos 60, eu fui para Portugal, estava em Lisboa, e formei um conjunto ali que se chamava Voz de Cabo Verde Show. Da época tinha uma angolana que me trouxe o nome, porque o nome foi ela que me deu o nome. Eu pus o conjunto, o nome do Cabo Verde Show. Depois, aqui em França, houve mais malta jovem, vinda da Guiné ou do Senegal, que parece-me, e que puseram o conjunto deles, o nome do Cabo Verde Show. Mas eu, na época, aí em Portugal, formei esse grupo em casa de uma senhora que se chamava Bia, na Rua dos Anjos, aí perto da Intendente. E então aí que a malta se produzia todos os fins de semana, estás a ver? E o nome do Cabo Verde Show pegou, foi ali com o Armando Tito, que é o conhecido guitarrista Armando Tito, o Dátion, que está na Holanda, na Bélgica, ele vive na Bélgica. Tínhamos um baterista, que era o Luís Matos, que estava na bateria, depois foi o Cabanga que tomou o lugar dele. E tinha um Mendes, com um rapaz que era militar na época, parece-me que era comandante da tropa, não sei o que mais, tinha vindo de Moçambique, sabes, na época, que era a malta que vinha dos combates, estavam todos psicologicamente transformados. Não?
Completamente. Mas, Jovino, eu que proponho é que numa próxima ocasião que tenhas um concerto, possamos fazer, porque isso é uma história, faz parte da história, da nossa história, pura simplesmente, mas também da história da música. Mas, no que diz respeito a este álbum, porque eu não podia esquecer um trabalho também que fizeste com o Paulinho Vieira, que é o álbum Sentimento de Amar, de Amor. De amor, com efeito, um trabalho extraordinário, porque surge este álbum agora, lembro o título, não garanto a pronúncia em crioulo, é sensível, e precisamente é uma autoprodução, de maneira que significa que hoje ainda os músicos têm enormes dificuldades para poder continuar a gravar, porque agora...
Está cada vez pior. Isso é cada vez pior. Neste álbum, eu, quando comecei a fazer esse trabalho, minha sensível, por exemplo, eu sou sensível, fala-se de um cabo-verdiano como eu, ou outro qualquer, que vê as condições de uma mulher cabo-verdiana, ou outra qualquer que trabalha aqui em França, a servir na casa das madames, e tal e aquele outro, a vida dela. Por que ela faz tudo isto? É porque ela deixou os filhos lá na terra dela, estás a perceber? Que se, mas isto não é só os cabo-verdianos, é a diáspora toda. E então, para mim, minha sensível, esta sensibilidade vem da maneira como vejo essas pessoas viverem cá. Vejo essas pessoas, são pessoas que têm condições de vida, às vezes melhor do que isso, mas aqui são obrigadas a seguirem esse sistema, estás a perceber? E então, essa sensibilidade toda vem daí. É a minha sensibilidade.
Jovino dos Santos, obrigadíssimo, e disse há instantes, quando começamos a falar, a emissão está a terminar, obrigado, Manuel Alexandre, e de maneira que é precisamente com este ode a Mica Cabral, que para nós é alguém que nos guiou, eu falo por mim pessoalmente, também na luta para dizer não à guerra colonial. Jovino, um grande muito abraço e até muito breve, então, até breve.
Muito obrigado, eu agradeço à Rádio Alfa. Olha, vocês que difundem o Mica Cabral, porque ele merece isso.
Obrigado, Jovino, e até muito breve.
Muito obrigado.
Obrigadíssimo. Ode a Mica Cabral. Texto e música de Jovino dos Santos. Bem-ajam.
Setembro 1924, na Bafa da Guiné, vou nascer Amílcar Cabral, Abu Jabá, Abel Jassi, Amílcar Cabral, Amílcar Abu Jabá, Abel Jassi, Amílcar Cabral. Vou estudar engenharia agrônima, mas foi na política que vou realizar o sonho de criar um Estado novo de Guiné com Cabo Verde. Mas combater esse colonialismo, vou nascer na terra longe, vou criar na Cabo Verde. Hoje o nome está escrito na história de África, Amílcar Cabral. Amílcar livrar-me a teoria de via história na tua escola e biblioteca desse país, para poder educar nos povos num ideal de dignidade. Amílcar Cabral, Amílcar Cabral. Thank you.
vivi, sempre vou pensar na luta para libertar tudo que és que colonialismo oprimi. Para uns, vou é um fazedor de utopia, mas sem utopias, mundo te acaba. Vou perder boa vida 20 de janeiro de 73, lá na Guiné, na Guiné, Conakry. A mim simples cabo-verdiano, cidadão desse mundo e de Mogílias, consciente do país que não tem, mas está vivendo essa liberdade. Recebesse minha singela homenagem na paz e diversidade daquele luta constante motivo para libertar Cabo Verde. Amiga Cabral, vou livrar-me a teoria de vias tortas.